Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, est avec nous en studio. Bon matin.
Bonjour.
Hey, je ne sais pas comment. Je ne sais pas sur quoi te lancer pour parler du budget d'hier. Je te laisse. T'aimes-tu mieux que je te demande qu'est-ce que tu penses du déficit d'11 milliards ou est-ce que tu aimerais mieux que j'aille large puis je te demande tes impressions sur le budget?
Eh bien, on peut parler de perte de contrôle ou de terrain très glissant ce matin.
Ouch, hein?
C'était glissant. On est vraiment... On a vraiment une situation qui nous glisse entre les doigts. Moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est les termes que j'avais en tête hier. Perte de contrôle, ça nous glisse entre les doigts. Notre situation est préoccupante parce que dans les faits, les rendez-vous, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Et les dépenses nous grugent plus que les revenus. Donc, ça engendre un budget très déficitaire, 11 milliards pour le budget actuel. On repousse d'un autre 5 ans le retour à l'équilibre budgétaire. Ça veut dire qu'à chaque année, on dépense plus que nos revenus. Donc, on engraisse la dette, on accentue cette dette. Donc, on va rester finalement déficitaire pendant 9 ans au total, si on calcule les 5 prochaines années, puis les 4 dernières années qui ont été déficitaires. C'est vraiment catastrophique, d'autant plus que les libéraux nous avaient laissé une économie puis un portefeuille très en santé. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment préoccupant parce qu'on était bien parti en 2018, tout allait bien. Et là, on est en patin.
Pire que mal allé, là.
Oui, c'est ça.
Hey, on peut-tu avoir, Jacinthe, une lueur d'espoir? OK, avec ce qu'on nous a présenté hier, le 11 milliards de déficit, la situation économique qu'on connaît, on peut-tu même avoir une lueur d'espoir qu'en 29-30, on aura équilibre budgétaire?
Bien, on a déjà eu des situations catastrophiques, puis il y a eu des redressements qui ont été faits dans le passé. La preuve, c'est la loi sur l'équilibre budgétaire que Lucien Bouchard avait mis en place dans les années 90. C'était justement suite à une menace de décote de la part des agences de crédit à New York qui voyaient notre situation qui est en perte de contrôle. Et Lucien Bouchard, à ce moment-là, nous a dotés de cette loi sur l'équilibre budgétaire pour s'assurer qu'il y a une rigueur, une discipline dans la gestion de nos finances publiques. Donc, ça s'est déjà fait, mais justement, il y a eu de la rigueur, il y a eu de la discipline et on a eu des gouvernements qui ont été moins populaires, comme notamment aussi le gouvernement Charest ou les libéraux, qui ont fait des choix difficiles, mais les choix difficiles dans un objectif de nous maintenir dans une saine posture au niveau des finances publiques. Là, on a un gouvernement qui n'aime pas déplaire. On a un gouvernement qui n'aime pas déplaire.
François Legault veut se faire aimer.
Bien, exactement. Il y a tellement de besoins partout que c'est difficile de dire non. Alors, en ne disant pas non nulle part ou en saupoudrant, bien, on le sait, là, avec nos budgets personnels, c'est la même chose. Même si on ne fait pas des grosses dépenses, quand on saupoudre nos dépenses, puis quand on ne dit pas non à rien, à un moment donné, on se dit, voyons, j'ai perdu le contrôle de mon budget, mais pourtant, je n'ai pas fait une grosse dépense particulière. Mm-hmm. Mais non, mais tu ne resserres pas nulle part, mais à un moment donné, c'est ça que ça fait, on est en perte de contrôle.
Et encore là, tu sais, on regarde, puis on est en perte de contrôle, puis on veut plaire à tout le monde, mais il n'y a pas de mesure concrète sur le logement, il n'y a pas de mesure concrète sur l'immigration, deux sujets qui font l'actualité depuis des mois comme étant justement des places où il y a une perte de contrôle.
Oui, bien, je pense que tout revient aussi à notre incapacité là, de créer de la richesse. Parce que là, notre système économique est basé sur les revenus tirés de l'impôt et des taxes. Mm-hmm. C'est bien beau, mais on a une société de salariés, une société de beaucoup de salariés ou de petites PME, du commerce au détail, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui constitue notre système économique en grande partie. Alors, faut trouver le chemin vers la création de la richesse. Donc, se doter d'industries qui vont vraiment générer des revenus importants pour l'État. Puis c'est là-dessus que la CAQ s'était fait élire, notamment en 2018. Hein. Elle promettait, elle était convaincue qu'il fallait créer de la richesse au Québec. Et elle se comparait à l'Ontario. C'est ce que l'Ontario a réussi à faire. Si l'Ontario est en bonne posture, c'est parce qu'elle a des industries très fortes qui prospèrent puis qui génèrent de la croissance économique.
Puis tu crois que les fumeurs vont nous sauver?
Bien, tu sais, on est allé chercher toutes sortes de mesures, justement, ouais. L'augmentation de la taxe sur le tabac, finalement, taxer les véhicules usagés de plus de 9 ans, là, de 9 ans à 14 ans, on va les taxer maintenant. Mais c'est des mesures, ça va faire des petites entrées d'argent, là, c'est loin d'être comparable à nos besoins. Puis ce qui est inquiétant aussi, là, puis qu'on ne dit pas dans le budget, mais le vieillissement de la population, la courbe démographique fait en sorte que ça va nous tirer encore plus de revenus. Oui, c'est ça, ça va nous tirer encore plus de fonds. Et les infrastructures vieillissantes aussi, nos ponts, nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. Il y a 44 % de nos infrastructures qui sont en mauvais état. Va falloir injecter de l'argent, mais on va avoir moins de jeunes, moins de générations actives pour payer ces infrastructures vieillissantes-là. Plus de gens en fin de vie ou en courbe démographique, où est-ce qu'ils vont tirer plus de fonds, de soins de santé. Donc, la seule avenue, c'est d'avoir, oui, de l'optimisation dans nos dépenses publiques. C'est clair. Il va falloir regarder quels sont les programmes, les postes qu'on peut couper dans les ministères ou du moins pas renouveler quand il y a des départs à la retraite. Et il faudra aussi regarder comment on peut générer de la richesse, créer de la richesse, stimuler les exportations. Comment un pays s'enrichit, c'est notamment à cause de ses exportations. Donc, comment on peut s'assurer que nos entreprises ici exportent davantage, innovent davantage? Mais ça, ça prend de la vision à plus long terme que la prochaine élection en 2026.
Mm-hmm. Mais justement, parce que là, ce qui a été dit hier, c'est qu'il allait avoir un examen des dépenses, qu'on allait vraiment tout regarder, puis que tout allait être sur la table, puis voir comment on peut optimiser tout ça. Mais de façon réaliste, y a-tu déjà des trucs qu'on peut voir en disant, OK, oui, OK, ça, on pourrait enlever ça, ça, on pourrait enlever ça, ou 11 milliards, c'est juste trop gros, puis ça va être dur d'en venir à bout à court terme, puis en même temps, la CAQ va-tu vraiment oser, à l'approche des prochaines élections, y aller de coupure? Puis
C'est une bonne question. Moi, je me suis toujours dit, c'est les gens sur le terrain qui sont les mieux placés pour le savoir. Et pour moi-même, avoir travaillé dans la fonction publique, quand on parle aux agentes administratives, quand on parle aux gens sur le terrain, sont les premières à le dire. « Ah, moi, en tout cas, là, ce programme-là ou ce service-là, ou en tout cas, même moi, mon poste, là, ce que j'avais avant ou le poste que j'ai actuellement, voyons donc, c'est n'importe quoi. » Les gens sur le terrain le savent. Et le problème des examens de la fonction publique, souvent, c'est qu'on passe par les paliers hiérarchiques. Et on sait, les paliers hiérarchiques, bien, c'est valorisant avoir une promotion et c'est valorisant avoir un gros salaire, avoir une grosse équipe de travail, une grosse structure sous sa direction. Donc, il n'y a pas de gestionnaire qui vont dire « Hey, moi, là, ma direction, tu pourrais me couper ça en deux, il n'y aurait pas de problème. » Il n'y a personne qui va dire ça. Mais le problème, c'est que les décisions puis les examens des fonctions publiques se font avec la hiérarchie et les décisions montent dans la hiérarchie pour se rendre jusqu'au ministre qui, finalement, lui, se fait dire « Bien, tu sais, on a rationalisé au maximum. On a coupé ci, ça, mais on coupe des grenailles, finalement. » Moi, je rêve d'un gouvernement qui va avoir le courage de dire « Voici, on ouvre un site web, là. C'est ouvert à toute la fonction publique, c'est ouvert à tous les citoyens qui vivent le quotidien, là. Puis écrivez-nous là-dessus où vous voyez qu'on pourrait couper. » Puis là, on en aurait des sacrées bonnes solutions. Mm-hmm. On en aurait des exemples concrets, mais il faut se fier aux gens sur le terrain.
Jacinthe-Ève, rassure-moi, tu connais tellement plus ça que moi. Puis moi, je suis cynique à l'os. Puis je trouve que cet exercice-là, c'est vraiment un exercice du moment. On parle de 29-30. On a des élections en 2026. Est-ce que c'est pas juste un pelletage de nuages, un pelletage par en avant et éventuellement sera probablement le problème dans la cour d'un autre gouvernement dans quelques années?
Bien, c'est... On dirait que
tu vas pas me rassurer, hein?
On dirait que tu as lu mes publications sur X, mais c'est ça que j'ai écrit hier sur X. Mais j'ai dit, là, on pelte vraiment les grands enjeux. Les enjeux difficiles, on les pelte au prochain gouvernement, aux prochains élus, aux prochaines générations aussi. Parce que oui, effectivement, Dieu sait ce qui va se passer d'ici 2029-2030, le contexte économique, les situations de guerre dans le monde. Il y a toutes sortes d'enjeux qui peuvent faire en sorte que l'économie va soit nous permettre de rebondir ou nous tirer en encore ouais. plus vers le bas. Fait que franchement, oui, c'est un exercice un peu paresseux de tout simplement dire, ben on verra. Hey, on n'a même pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Là. C'est, on s'est dit, on va y aller à l'année prochaine ouais. pour faire un plan. Mais c'est sûr qu'on ne pense pas arriver à l'équilibre budgétaire avant 2029-2030. Le problème aussi, c'est que les Québécois, en général, ou quand on écoute les gens parler, les groupes d'intérêt, on parle de la dette, là, ça préoccupe pas tant que ça, les gens, hein, la dette. Un peu, là, mais il reste que quand on gratte moindrement. Puis hier, on en avait là, des gens qui représentaient des syndicats, par exemple, qui disaient, ben là, tu sais, on est capable quand même de se permettre de la dette. Puis moi, je travaille en télévision avec des gens, des collaborateurs, qui le disent, ben là, notre dette, c'est pas si pire que ça. Il y a des gens pour qui la dette, c'est pour les autres, ça appartient globalement à la masse, ça appartient aux plus jeunes, ça appartient aux futures générations.
Ça nous touche pas.
Oui, exactement. Ouais. Ouais.
Mais t'as raison, tu sais, la CSN est sortie en disant, ah, chapeau, on n'est pas de retour à l'austérité alors qu'on est en dette de 11 milliards. Tu fais, ouais, il me semble que j'aurais pris d'austérité, moi, mais bon, c'est un autre sort. Moi, je veux te parler de la région de Québec, région de Chaudière-Appalaches. Il n'y a rien dans le budget. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu la région de Québec abandonnée comme ça.
Effectivement, on a l'impression... c'est une impression qui perdure, en plus,
oui.
S'il y avait une occasion, là. Puis, s'il y avait une occasion, là, de se racheter ou de promouvoir quelque chose, mais en même temps, justement, ça va tellement mal que si on avait remis sur dans les cartons un grand projet d'infrastructure, ça aurait fait probablement trop jaser. Donc, on a choisi la voie de maintenir le statu quo, mais le statu quo, c'est que Québec est perdu pour la CAQ. Là.
C'est clair.
C'est très préoccupant, effectivement. Au niveau régional, on n'a rien. Puis notre économie, on l'a vu, là, cette année, on a la ville canadienne avec le moins grand PIB. Donc, on a un problème de développement économique à Québec, dans la région de Québec.
Donc, et pour reprendre tes mots, de création de richesse.
Exactement. Donc, puis on n'a pas de plan pour faire créer de la richesse ici à Québec. Donc, faites aller, moi, je dirais aux auditeurs, il y a certainement des entrepreneurs dans nos auditeurs. Il y a des gens aussi qui réfléchissent, qui ont des bonnes idées. Moi, je pense qu'il va falloir que les gens parlent un peu plus ou écrivent un peu plus, puis promouvoir des idées parce que franchement, c'est pas notre gouvernement. On peut pas se fier sur notre gouvernement, du moins pour avoir des idées de création de richesse. En tout cas, pas dans la région de Québec, ça, c'est clair.
Jacinthe, j'aimerais ça terminer cette discussion-là sur le budget de façon positive. Y a-tu quelque chose de positif que t'as remarqué hier par rapport au budget? Y a-t-il du bon à dire?
Il y a des enjeux d'inégalité ou d'iniquité qui ont été résolus ou vers la voie de la résolution. Par exemple, les gens qui avaient des indemnités d'invalidité jusqu'à 65 ans. À 65 ans, ils perdaient une portion de leur rente d'invalidité. Là, on tend à revenir vers un équilibre. Donc ça, je trouve que c'est bien là, parce que ça plongeait des gens déjà très vulnérables dans une plus grande pauvreté à l'âge de 65 ans. On fait des investissements en santé et en éducation aussi. L'éducation, c'est la base de la création de richesses. C'est, les enfants, c'est l'avenir. Encore faut-il maintenant... Je mets quand même un bémol. On investit encore en santé, encore en éducation. L'éducation, c'est important. Mais comment cet argent va être investi en éducation? C'est vraiment dans le comment qui va faire en sorte qu'on pourra dire oui de maintenir la croissance des dépenses en éducation comme il a été projeté dans ce budget-ci. Oui, ça va donner des résultats parce qu'on ne fait pas juste donner de l'argent pour donner de l'argent. On met en place des programmes où on met en place des mesures de soutien pour s'assurer que nos jeunes aient une meilleure éducation. Parce que si nos jeunes ont une meilleure éducation, ben ils vont obtenir des meilleurs emplois ou ils vont créer des entreprises plus rayonnantes pour notre État puis qui vont générer plus de richesses.
Ça finit avec un mythe ou un petit point. On y allait dans le positif, mais...
Banque alimentaire, Red, ils ont eu leurs 30 millions.
Ben ça, c'est une bonne nouvelle aussi, là, parce qu'on en parlait hier avec M. Munger.
Mais c'est du court terme.
Oui.
Très court terme, ben c'est 10 millions tout de suite l'année d'après.
Oui. Puis après ça, il n'y a plus rien.
C'est ça.
Hey, on... il y a tout le temps les mets. Tout le temps les
mets. Je le sais.
C'est ça.
C'est plate.
Hey, puis c'est drôle parce que, c'est pas drôle pantoute, mais on se demande, puis on demande du désintérêt des gens par rapport au budget, puis notre jeunesse en pense quoi. Ça, je suis d'accord avec toi aussi que, tu sais, pour les générations à venir, on leur laisse quoi. On va parler avec Lauriane Derry tantôt. Incroyablement impliquée et allumée côté politique. Elle est présidente Force Jeunesse. 8h15, on va demander qu'est-ce que la jeunesse pense. Ouais. De la présentation du budget d'hier. Et si vous demandez, bon, vous ne parlez pas au ministre Girard, imaginez-vous donc, voilà une couple de semaines qu'on est en contact avec l'équipe du ministre Girard, bien booké, comme vous pouvez le penser ce matin. Demain, on va jaser avec le ministre Girard par rapport à ça. Peut-être après 48 heures aussi, il va avoir un petit peu plus de... Tu sais, il va décanter un petit peu.
Bien, j'espère qu'il va trouver autre chose à dire, que les bassins sont pas assez élevés, là, les bassins d'Hydro-Québec, puis c'est ce qui fait en sorte, notamment, qu'on est moins capable de vendre l'hydroélectricité puis que ça baisse nos revenus, là.
C'est
à cause des autres, là, ça marche pas.
Non, c'est ça.
C'est bien noté. Jacinthe Tavarel, notre chroniqueuse politique, toujours un plaisir.
Merci.
À bientôt. Jusqu'à 10h.